Donc, merci Cécilia. Donc, ce soir, j'ai été donc invitée par Cécilia qui fait sa résidence ici pour vous parler un petit peu des questions migratoires et des politiques migratoires européennes. J'ai travaillé dans le cadre de mes études sur un contrat qui concernait le Maroc et l'Espagne, un contrat de travail, de migration choisie et temporaire entre le Maroc et l'Espagne. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais pour commencer, je vais un petit peu mettre en place quelques éléments sur la question de la migration et de l'Union européenne. Donc j'ai évité de trop ressortir des statistiques, des chiffres, des dates pour que ce ne soit pas trop lourd ce soir. Donc je vais mettre en place juste quelques aspects de ces politiques migratoires pour qu'on comprenne en fait plus en général la question de la politique migratoire européenne et comment elle se met en place dans le cadre de la mondialisation. Donc j'ai travaillé aussi plus particulièrement sur les migrants subsahariens. Donc je vais plutôt me baser sur cet exemple-là des migrants qui viennent du sud du Sahara, de l'Afrique de l'Ouest et qui tentent de venir en Europe. Donc tout d'abord, ce qu'il faut dire pour ces migrations-là, c'est que en Afrique de l'Ouest, en ce moment, les pays sont en train de vivre une migration, enfin une transition démographique importante, c'est-à-dire que ils sont en train de faire leur transition démographique, ce que les pays européens ont fait également au moment de leur industrialisation au XIXe siècle. C'est en fait caractérisé par une forte démographie et une baisse de la mortalité, ce qui fait que l'accroissement démographique est très important et du coup il y a des surplus de population qui, en Europe, à l'époque du XIXe siècle, sont pour la plupart partis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et les pays africains, en ce moment, se retrouvent avec cet excès de démographie qu'ils doivent réussir à gérer. Donc, une des façons de gérer cette démographie, c'est à travers l'immigration qu'elle se fait. C'est bon. J'ai juste oublié qu'il y avait des micros. Je vais mettre. Ok, c'est bon. Donc, l'autre aspect qui est important pour l'Afrique de l'Ouest, c'est tout l'aspect mondialisation. Ces pays sont rentrés, comme la plupart des pays dans le monde, dans une phase de mondialisation économique, ce qui veut dire en fait une ouverture des marchés, une diminution des protections de leurs produits aux douanes et du coup une invasion de produits agricoles surtout et industriels qui viennent de pays industrialisés depuis plus longtemps. Donc ces pays se retrouvent économiquement en situation de faiblesse. Ils ne peuvent plus souvent développer leur propre agriculture, leurs propres produits nationaux, parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec des produits qui sont beaucoup plus, enfin qui sont produits de façon beaucoup plus concurrentielle sur les marchés mondiaux. Donc, ceci fait que la situation économique des pays africains est souvent assez difficile à supporter. D'autre part, depuis la crise de l'endettement des années 80, on leur impose ce qu'on appelle des ajustements structurels. C'est la Banque mondiale, le FMI, qui leur impose en fait des restructurations de leur économie nationale qui sont souvent très difficiles à supporter et qui impliquent des taux de chômage élevés, des privatisations de leurs infrastructures. Et tout ceci, en fait, implique une économie qui s'affaiblit et qui devient de plus en plus difficile à supporter pour les gens, avec une grande paupérisation comme conséquence. Un exode rural important aussi. Souvent, les paysans n'arrivent plus à produire des produits concurrentiels, donc doivent partir dans les villes. Et tous ces mouvements migratoires implique une surpopulation dans les villes et un besoin de pouvoir en fait de pouvoir gérer cette surpopulation, et une des solutions pour gérer cette surpopulation est la migration vers des espaces qui semblent plus opportuns pour ces gens. Donc un de ces espaces est évidemment l'Union européenne. Chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a environ 10 000 personnes qui partent des pays subsahariens pour l'Union européenne. Et évidemment, ça a des conséquences importantes pour cette Union qui doit pouvoir gérer cette migration et cette nouvelle pression démographique. Donc, comme vous le savez tous, l'Union européenne est en construction. Elle est gérée par ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui est un espace à l'intérieur duquel la circulation se fait de manière libre, plus ou moins en tout cas, et qui implique en fait une des frontières autour de cet espace de plus en plus imperméable. Donc ça, c'est un aspect très important parce que justement l'intérieur de l'espace Schengen, qui est censé être justement régi par cette libre circulation des personnes, devient un espace en fait forteresse, ce qu'on appelle l'Europe forteresse. Donc un des aspects importants est justement le renforcement de ces frontières qui se fait à travers différents dispositifs, que ce soit des dispositifs de contrôle, par exemple des fichiers qui permettent de contrôler toutes les personnes qui circulent à l'intérieur de cet espace ou qui veulent rentrer dans cet espace, notamment le fichier SIS, qui est un fichier justement qui fiche toutes les personnes, notamment tous les migrants qui veulent rentrer et qui ont été refusés d'entrer dans cet espace. Et toutes ces personnes se retrouvent fichées de manière centralisée au niveau européen. C'est pour permettre en fait une collaboration entre les polices et une collaboration judiciaire plus importante. Ce fichier à la base était censé également, enfin surtout, établir une collaboration entre les polices pour les criminels. Mais quand on voit les personnes qui sont fichées à l'intérieur, on voit que c'est 89% de migrants. Donc, à l'intérieur de ces fichiers, vous avez différents descriptifs des personnes, où elles ont été refusées d'entrer, leurs descriptifs physiques, etc. Donc ça, c'est une manière de surveiller les migrants qui est assez importante. Une autre façon de gérer cette migration et qui a été mise en place en même temps que l'espace Schengen, c'est le visa unique. Donc c'est un visa qui est demandé à toute personne qui veut rentrer dans cet espace et qui est un visa valable pour 90 jours, pardon, 90 jours, je suis suisse. Donc toutes les personnes ne sont pas égales devant ce fichier pour l'obtention de ce fichier, pardon, de ce visa. Par exemple, un jeune ressortissant d'un pays du Sud aura moins facilement l'accès à ce visa pour venir en Europe. Il y a également plusieurs pays qui sont sur une liste noire et desquels, enfin, quand vous demandez un visa depuis ces pays-là, c'est beaucoup plus difficile d'en obtenir un, notamment au Maroc. C'est très difficile d'obtenir un visa Schengen. Et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Les démarches administratives sont très lourdes et très longues. Donc évidemment, toutes les personnes ne sont pas à égalité devant l'obtention de ce visa. D'autre part, il y a aussi à l'intérieur de l'espace Schengen un nouveau phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et qui pose quand même des problèmes éthiques importants. C'est tout le phénomène des camps de rétention qui sont en train de se mettre en place. Au début, ces camps de rétention étaient surtout situés aux alentours des aéroports ou des accès maritimes à l'Union européenne. Maintenant, on en voit un peu partout se développer et ils posent des problèmes éthiques, notamment la question de savoir est-ce qu'on a le droit de garder des migrants à l'intérieur de ces camps de rétention seulement parce qu'ils sont migrants et qu'ils ne viennent pas de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'associations, notamment des droits de l'homme, qui dénoncent ces camps de rétention et les conditions de rétention des migrants qui sont détenus et souvent violentés à l'intérieur de ces camps. Un autre dispositif qui a été mis en place pour gérer cette migration est l'agence Frontex. C'est une agence qui a été mise en place en 2004 et qui a pour but de patrouiller en fait aux portes de l'Europe dans les zones où on sait que ce sont des zones de passage pour les migrants. Notamment toutes les mers, la mer Méditerranée, du côté de l'Italie, de l'Espagne, mais aussi au large des côtes de Mauritanie, du Sénégal, tous les accès en fait pour les îles Canaries. Donc cette agence Frontex patrouille en fait en mer avec des bateaux et collabore avec des polices nationales pour pouvoir arrêter les migrants qui veulent tenter l'expérience de la migration vers l'Union européenne. Donc un des aspects... Merci. Pardon. Donc un autre aspect qui est très important dans ces questions de migration et qui est assez nouveau, qui date à peu près des années 2000 et qui marque un tournant dans la gestion de la politique migratoire, c'est une politique d'externalisation de la gestion de la migration. En fait, cette politique consiste à déplacer les frontières de l'Union européenne vers les pays de transit ou les pays de départ des migrants. Ce qui fait qu'on demande aux pays qui sont justement ces pays de départ ou ces pays de transit de collaborer avec des polices européennes et d'elles-mêmes gérer cette migration et d'empêcher les migrants de venir en Union européenne. C'est le cas notamment au Maroc, que je connais un petit peu mieux, et qui justement depuis 2006 gère elle, enfin lui-même la migration des migrants subsahariens qui veulent venir en Union européenne. Donc ça implique en fait un dispositif aux frontières du Sud, mais aussi aux frontières du Nord pour éviter que ces migrants ne puissent faire la traversée de la mer Méditerranée. En fait, cette politique est basée sur deux idées principales. La première, c'est de préserver la santé du migrant, parce qu'on a constaté en fait que chaque année, il y a des centaines de personnes qui meurent en mer Méditerranée parce qu'ils tentent de rallier l'Espagne, notamment avec des petites barques de fortune. Donc on estime qu'il y a environ 10 000 personnes qui sont mortes en 10 ans dans la mer Méditerranée. Donc c'est une des façons de pouvoir préserver, de pouvoir aider, soi-disant, les migrants et de les empêcher de faire cette traversée-là. Donc c'est un des deux piliers, justement, qui a développé cette idée d'externalisation de la gestion de la migration. Et l'autre idée était de prendre en compte de manière sérieuse le fait que ces migrants ne viennent pas de n'importe où, mais ils viennent de certains pays précis et ils passent par certains autres pays. Donc l'idée est de prendre en compte cette migration et de la bloquer le plus tôt possible. Donc, en 2006, notamment, il y a eu une conférence ministérielle qui a eu lieu à Rabat, au Maroc, et qui, justement, a mis en place cette politique d'externalisation de façon très cohérente et très pointue, en demandant justement aux politiques marocaines de faire en sorte que les migrants subsahariens ne puissent plus faire cette traversée, ne puissent plus, en fait, restent bloqués au niveau du Maroc. Ça implique évidemment ça a des conséquences très importantes pour les migrants subsahariens qui sont en fait maintenant bloqués pour la plupart au Maroc. Il y a une véritable chasse à l'homme qui s'est instaurée depuis ce moment-là. On a vu dans les mois qui ont suivi cette ministérielle de 2006, on a vu plusieurs fois des rafles très importantes dans les villes comme à Rabat notamment. Ces rafles ont réussi, enfin, ont eu comme conséquence d'attraper des centaines de migrants qui ont été reconduits à la frontière, qui ont été lâchés en pleine nature, dans le désert. Souvent, il y avait des femmes, des enfants, il y a eu plusieurs morts suite à ces rafles. Et maintenant, les migrants, évidemment, essayent d'éviter les centres urbains du style Rabat, où avant, ils se regroupaient souvent. Et finalement, ça a comme conséquence importante d'instaurer une peur très violente chez les migrants qui doivent vivre cachés, qui ne peuvent plus vraiment vivre ouvertement comme ils le faisaient jusqu'à il y a 2 ans au Maroc. Ils vivent cachés à la frontière algérienne, notamment enfin, dans une ville qui s'appelle Oujda, dans ses alentours. Et l'autre conséquence, évidemment, qui est très violente également, c'est toutes les maltraitances que les migrants subissent par la police marocaine qui a la main apparemment assez, assez lourde sur ces migrants. Donc j'ai eu l'occasion de lire un rapport notamment de Médecins sans frontières qui annonçait 8 000 cas de maltraitance de migrants en 4 ans de présence active sur le Maroc. Donc c'est des cas de... Enfin, vous trouvez un peu de tout, de viol sur les femmes et sur les hommes aussi, de maltraitance physique et psychologique sur ces populations-là. Évidemment, ça a une conséquence de précariser encore plus des personnes qui sont déjà précaires et qui sont déjà très fragilisées par leur choix de migration. Maintenant, j'aimerais juste venir encore au deuxième volet de ce que j'avais envie de présenter ce soir, parce que à côté de toute cette gestion sécuritaire de la migration, vous trouvez une autre gestion, une autre politique importante de l'Union européenne qui se développe de plus en plus et qui est en fait induite par le vieillissement de la population en Union européenne et par le besoin de l'Union européenne de main-d'œuvre bon marché, mais aussi de main-d'œuvre forte et non qualifiée pour faire des travaux que les gens ici ne vont pas faire, dans lesquels il manque de la main-d'œuvre. En fait, ce sont en général dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'agriculture et du soin aux personnes âgées et des soins hospitaliers, vous trouvez un manque important en général de main-d'œuvre ici. Donc, l'Union européenne, depuis quelques années, comme vous l'avez certainement entendu, a décidé de se tourner vers des politiques de migration choisies. Et c'est aussi une nouvelle politique qui est importante et qui se pratique depuis longtemps, notamment aux États-Unis avec le Mexique, mais qui est assez récente en Union européenne. Donc, pour ce volet-là de la politique migratoire, je vais juste vous parler quelques minutes d'un contrat de travail qui existe entre l'Espagne et le Maroc et sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Ce contrat de travail est un contrat de travail temporaire et qui concerne des personnes très particulières et qui s'appelle Anaeas Cartaya. Donc, il a été développé pour permettre en fait aux producteurs de la fraise dans le sud de l'Andalousie dans une région qui s'appelle Huelva, d'avoir accès facilement à une main-d'œuvre docile et très productive, et surtout une main-d'œuvre qui retourne chez elle après avoir travaillé dans les champs espagnols. En fait, ce contrat de travail concerne des femmes seulement, mères avec des enfants en bas âge. Comme ça, l'idée est de donner une garantie au retour des travailleurs après qu'ils soient venus travailler dans les champs espagnols. En fait, ce contrat de travail a été signé par les différents acteurs en jeu, notamment des politiques et des agriculteurs en espagnol, entre le Maroc et l'Espagne. Et les femmes qui vont travailler dans les champs espagnols sont des Marocaines qui sont justement choisies parce qu'elles sont mères et qu'elles ont des enfants en bas âge. Donc, ce contrat de travail est souvent acclamé comme une grande réussite. Maintenant, ça fait déjà 3 saisons de la fresque, entre 10 et 15 000 Marocaines vont travailler dans les champs de la fraise en Espagne. Et ce contrat est considéré comme une grande réussite parce que le taux de retour est d'à peu près 95%. Donc il y a seulement 5% des femmes qui décident de rester quand même en Europe. Donc c'est considéré comme une grande réussite de la part des différents acteurs présents. Le Maroc acclame cette façon de travailler parce que les femmes qui vont travailler pendant 3 ou 6 mois en Espagne ramènent assez d'argent, ramènent plus d'argent que si elles n'avaient travaillé une année au Maroc, ce qui fait vivre évidemment l'économie marocaine. En plus, ces femmes reviennent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a toujours eu de la peine à perdre ses ressortissants en Union européenne. Donc pour eux, l'idée d'avoir des femmes qui partent travailler, qui ramènent de l'argent, mais qui restent au pays, est très importante. Et évidemment, les agriculteurs sont très contents, parce que c'est tout bénéfice pour eux. Ils disposent d'une main-d'œuvre docile, et surtout qui repart au moment où ils n'en ont plus besoin. Donc ils engagent ces femmes pour 3 voire 6 mois. Et les politiques européennes sont également très contentes parce que ça permet en quelque part de gérer mieux cette migration qui, si elle n'était pas gérée sous ce contrat, viendrait peut-être de manière clandestine en Europe et disparaîtrait au bout de quelques temps en Union européenne. Donc finalement, tout le monde est content avec ce contrat. Il semble qu'il satisfasse tous les acteurs, sauf que, évidemment, les personnes qui n'ont pas été interrogées pour savoir si ce contrat se passe bien sont les femmes qui travaillent. Et quand on les interroge, on voit évidemment que leurs conditions ou leurs appréciations, disons, de leur travail est tout à fait différente que ce qu'on peut lire sur les bilans de ce contrat. Notamment, ces femmes déplorent leurs conditions de vie en Espagne. Elles sont gardées, cantonnées dans des camps fermés, desquels elles n'ont pas le droit de sortir. Ce sont des baraquements généraux en tôle, et elles vivent dans des conditions assez déplorables sur place. Elles souffrent de la chaleur la journée, du froid la nuit, ne peuvent pas sortir. On leur confisque leur passeport à leur arrivée pour être sûre qu'elles ne s'échappent pas. Elles n'ont pas le droit de s'organiser entre elles. Si certaines ne sont pas d'accord ou protestent de leur protestent contre leurs conditions de travail. Ça. Si elles protestent par rapport à leurs conditions de travail, on les empêche de travailler pendant quelques jours. En fait, c'est un moyen de pression pour, pour qu'elle reste docile et sage. Ces femmes sont également assez critiques par rapport à leur manière d'être sélectionnées. Elles sont sélectionnées au Maroc. Elles sont en général, on leur demande de venir un jour, le jour de la sélection, et elles sont sélectionnées non seulement par rapport à leur maternité, mais aussi par rapport à leur poids. En général, on demande à ce que les femmes ne soient ni trop grosses et ni trop maigres pour pouvoir être plus productives, mais aussi par rapport à leur âge. Parce que si elles sont trop âgées, évidemment, elles sont moins productives, et trop jeunes, elles sont trop indociles. Donc, elles-mêmes ressentent ça comme très discriminatoire, cette manière de sélectionner, d'être sélectionnée. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, dans ce travail, ce contrat de travail, c'est que les femmes les plus vulnérables, de nouveau, sont celles qui vont le plus souffrir. Et sur place, en Espagne, les conditions vont être tellement violentes que, enfin, pour certaines, en tout cas, vraiment difficilement supportables. Et de nouveau, ce seront les personnes les plus fragiles qui vont le plus souffrir de cette situation. Donc, en fait, ce petit exemple, c'était pour vous montrer, en fait, le décalage qui existe entre ce qui se dit sur les papiers officiels, etc., le discours qui est porté par les politiques officielles aussi, qui montre que la migration choisie ou la migration temporaire peut être une bonne solution. Quand on va interroger les acteurs sur le terrain, on voit qu'il y a un grand décalage, en fait, entre une réalité sociale et le discours qui est porté par les personnes officielles qui soutiennent ce type de contrat. En fait, finalement, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est de se demander quelle est un peu la place de l'être humain dans ces politiques, que ce soit des politiques sécuritaires ou des politiques de migration choisies. L'être humain n'a plus vraiment de place. On divise, en fait, les êtres humains en êtres humains de première catégorie, ceux qui peuvent circuler librement à l'intérieur d'un espace parce qu'ils ont la chance d'être nés dans cet espace-là, et les personnes qui sont nées à l'extérieur, qui voient, en fait, cette frontière qui s'élève comme un mur, en fait. Et la question aussi du choix de société, est-ce que nous sommes porteurs de ce choix? Est-ce que nous sommes à l'intérieur, mais est-ce que finalement cette société-là et ce projet-là de société qui est en train de se construire, est-ce que vraiment nous pouvons le cautionner les yeux fermés sans réagir? Voilà, c'était... Donc, en fait, l'idée, c'était de vous laisser réagir, et puis, je sais pas, de faire un petit débat si vous avez envie de le faire. C'est un peu selon votre intérêt ou votre envie de réagir par rapport à ça.
Très satisfait de cet exposé succinct, mais qui résume bien la situation en retraite. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, c'est cette volonté française, entre guillemets, de restituer aussi cette migration pour l'empêcher, et la remplacer par une aide au développement dans les pays concernés. Quel est votre point de vue sur cet aspect?
Non, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas abordé. Je l'avais noté effectivement. C'est un autre aspect qui est très important. C'est effectivement de se dire qu'il faut d'abord développer Les pays africains, etc., pour empêcher les personnes de migrer. Et il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'autre aspect qui me semble important, c'est en tout cas dans le cas de l'externalisation des politiques migratoires, c'est d'accompagner le développement. Pardon, j'ai un peu la voix qui casse ce soir. D'accompagner le développement par des exigences. En fait, on donne de l'aide au développement, mais parallèlement, on exige de la part des pays de faire des efforts dans les questions migratoires. Mais par rapport à la France même, je ne pourrais pas vous répondre parce que je connais très peu, vu que je suis moi-même suisse et donc non européenne. Mais peut-être que vous pourriez, si vous avez quelque chose...
Je vous réponds seulement par une phrase. Vu la personne qui est responsable de ce secteur des migrations en France, on ne peut que lui faire confiance. Hein.
Si vous le dites.
Il y a un gros débat sur l'immigration choisie, parce que c'est quand même ce qui a été promis par le président, et qui est une grosse catastrophe pour les pays d'où vient l'immigration. L'immigration choisie, c'est on prend ceux qui sont issus d'un parcours on va dire universitaire ou quoi, ou qu'on ont peut-être capacité à booster le PIB, et on les prend, on les emmène, on les saisit. Donc on tue le développement du tiers-monde.
Tout à fait, mais ce qu'il faut voir...
C'est la politique maintenant.
Oui, c'est clair. Bon, j'avais décidé justement de présenter ce volet-là sous l'aspect justement de travailleurs temporaires, parce que c'est une forme de migration choisie. On décide de prendre des bras, de les importer le temps d'une récolte, etc., et ensuite de renvoyer les gens chez eux. Maintenant, c'est clair que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi... pas mal de politiques dans beaucoup de pays du Sud par rapport à tout ce qui est brain drain, tout ce qui est justement attirer les cerveaux, qui pousse en fait dans ce sens. Parce qu'il y a énormément de pays du Sud, notamment le Maroc, qui poussent leurs ressortissants à aller travailler pendant une certaine période dans des espaces économiquement plus importants pour pouvoir justement bénéficier des remittances, je ne sais pas comment on dit en français, des remittances, enfin de l'argent qui est envoyé ensuite des migrants dans les pays en voie de développement, donc dans leur famille. Tout cet argent-là, qui représente des sommes énormes. Et souvent, les pays du Sud poussent leurs ressortissants en fait à ce type de processus. Et évidemment, c'est une catastrophe parce que sur place, en fait, ça coupe toute une partie d'un potentiel de développement que ces gens-là n'apportent plus à leur propre pays, mais apportent à d'autres pays. Et l'argent qui est envoyé en retour ne compense pas du tout, à mon avis, la perte de ces cerveaux ou de ces bras ou de ces personnes-là, quoi. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, il y a des pays du style les Philippines qui basent leur développement économique là-dessus. Alors, ils ont vraiment des agences qui recrutent des gens dans leur pays pour les envoyer aux États-Unis travailler. Et ces pays-là ne se rendent pas compte que c'est leur propre développement qu'ils entravent en utilisant ce processus-là. Mais c'est des politiques tout à fait.